France Culture. France Culture. Les midis de culture. Élise Lépine.
Bonjour et bienvenue dans les midis de culture et je suis enchantée d'être avec vous. On dit souvent que tout ce qui brille n'est pas or et on a raison, parfois c'est du verre. Le sculpteur Jean-Michel Autoniel, qui est notre invité aujourd'hui, travaille le verre et pratique un art de l'émerveillement qui confine au sacré. Que vous soyez en vacances, en Avignon, à Cannes ou même en Chine, vous risquez fort de vous retrouver face à ses œuvres puisque son travail fait l'objet cet été non pas d'une, mais de trois expositions. Autoniel, Cosmos ou les fantômes de l'amour, ce sont 260 œuvres installées dans 10 lieux de la ville d'Avignon, avec un grand événement les 1er et 2 août, la représentation de Midnight Soul, spectacle de danse chorégraphié par Caroline Carlson. On peut aussi admirer Poussière d'étoiles à la Malmaison à Cannes. Et à Shanghai, on peut voir l'exposition Autoniel The Enchantment au Long Museum. Sans parler bien sûr de ses installations permanentes dans l'espace public, le célèbre kiosque des Noctambules à la station Louvre-Rivoli à Paris, mais aussi à Versailles, à la cathédrale d'Angoulême, au Puy-en-Velay et jusqu'au Japon, en Corée ou aux États-Unis. Bonjour Jean-Michel Autoniel.
Bonjour.
Alors comme je le disais en vous présentant, votre travail fait l'objet de trois expositions cet été, dont ce sacre à Avignon, Autoniel Cosmos ou les fantômes de l'amour, exposition magistrale avec 260 œuvres exposées dans 10 endroits différents de la ville. Qu'est-ce qu'on ressent en tant qu'artiste quand on investit comme vous plusieurs endroits différents mais au même moment?
Une grande schizophrénie de se retrouver comme ça sur plusieurs continents, plusieurs villes et puis surtout à Avignon sur 10 lieux en même temps. Donc c'est un peu le hasard des calendriers, mais c'est aussi un moment, je pense, important dans ma carrière. Je crois que c'est un moment de plénitude comme ça qui se cristallise cette année.
Vous arrivez à ressentir une plénitude en étant à différents endroits et sans avoir un sentiment de morcellement ou d'éparpillement?
Oui, je pense que j'arrive à un moment dans ma carrière où justement j'arrive à jouir de tout ça avec un sacré calme, je trouve, mais aussi parce que je suis bien entouré et qu'on arrive à construire ça avec mon studio et que c'est un moment, oui, qu'il faut saisir, qu'il faut en être pleinement heureux, je pense, oui.
C'est vrai que vous dégagez beaucoup de sérénité dans ce studio. Alors on va revenir, Jean-Michel Autoniel, au lieu où tout a commencé, la ville de Saint-Étienne, dans laquelle vous grandissez entre deux univers. D'un côté, eh bien, il y a la mine qui tourne encore et où travaillent les parents de certains de vos camarades de classe. Et puis de l'autre, il y a l'art qui vous intéresse très tôt et le musée d'art moderne et contemporain qui est fabuleux à Saint-Étienne et qui vous enchante. Est-ce que ces deux univers, celui de l'art et celui du charbon, de sa poussière aussi qui recouvre Saint-Étienne, à cette époque, ont contribué à forger, à façonner l'artiste non morcelé que vous êtes?
Je ne sais pas si, ça m'a forgé, mais en tous les cas, cette notion du travail, oui, était importante pour moi. C'est une chose que je crois que je travaille beaucoup et j'aime les gens qui travaillent, ça me fascine, de leurs mains aussi, hein, pas seulement de leur tête. Mais ça a été surtout le musée, une porte, une fenêtre, un rêve de s'échapper qui s'est présenté à moi et que j'ai su saisir.
Ça a été comme une façon aussi de garder les pieds sur terre, le côté ingrat de ce travail de la mine et tout ce qu'on peut penser ou dire sur Saint-Étienne qu'on entend parfois.
C'est-à-dire qu'enfant, on ne se rend pas vraiment compte de ça. Au contraire, moi j'étais fasciné par les mineurs, la façon de travailler, la façon de rentrer chez soi tout noir et voilà, enfin il y avait quand même tout cet émerveillement quand même qu'on pouvait voir en tant qu'enfant. Je pense que tous les enfants partageaient ça avec moi. C'était un peu les héros de la ville.
Alors l'une de vos premières œuvres, c'est Autoportrait en robe de prêtre que vous faites en 1986. C'est une photographie dans laquelle vous apparaissez caché sous une robe blanche devant les chutes d'une rivière gelée. On peut pas vraiment voir votre visage, mais c'est bien vous. Plus jeune, vous faites aussi beaucoup d'autoportraits que vous qualifiez de fantomatiques. Aujourd'hui, Jean-Michel Autoniel, est-ce que vous êtes toujours caché quelque part dans votre œuvre, même si vous n'apparaissez plus physiquement?
Je crois que je suis caché derrière mes œuvres. Oui, pour moi, l'important, c'est vraiment mes œuvres plutôt que moi. C'est pas ma personnalité, je dirais, qui est importante. Ce qui est important, c'est ce que dégagent mes œuvres, ce qu'elles communiquent aux autres, la joie qu'elles apportent et le rêve aussi, l'échappatoire peut-être que j'essaye de transmettre.
Vous me parliez d'émerveillement dans la précédente réponse. Alors, vous commencez par produire des œuvres qui sont assez sombres, qui sont marquées par la souffrance, par le deuil aussi d'un premier amour. Et puis, aujourd'hui, quand on lit sur vous, Jean-Michel Autoniel, quand on fait des recherches, on se documente, on écoute des interviews, ce fameux mot d'émerveillement qui est arrivé très tôt dans notre conversation, on l'entend partout, tout le temps. Comment avez-vous trouvé ou retrouvé le chemin vers l'émerveillement? Alors, vous me parliez justement de cet enfant et puis du fait de voir ces mineurs descendre et extraire des choses de la terre. Mais comment s'est passée pour vous la progression vers cet émerveillement constant qui vous caractérise?
Ça prend du temps de se reconstruire, mais je pense surtout... Moi, j'étais un petit garçon très joyeux, donc je crois que j'ai ça au fond de moi. C'est une chose indestructible. Et puis, oui, il y a une sorte de volonté aussi de transmettre la plus belle face du monde. Ça, c'est une volonté que j'ai. J'ai cette volonté dans mon travail de porter un espoir. Et donc ça, c'est ce qui m'a permis moi de transmettre ça à travers ces différentes années. On parle quand même de 40 ans de travail. Donc il y a tout un travail comme ça de retrouver cette liberté, peut-être cette joie qui était en moi et qui aujourd'hui, grâce à la maturité, peut s'exprimer totalement.
Donc une maturité, mais aussi une part d'enfance. Quel espoir est-ce que vous portez, Jean-Michel Autoniel? Quelle est l'espérance que vous avez avec cette œuvre?
Avec mes œuvres en général, je pense que ce qui est important, c'est offrir des plaques sensibles qui permettent de vous reconstruire, de vous émerveiller encore, même si vous êtes adulte, même si la vie est dure, même si l'actualité nous harcèle. Je pense qu'il y a un moment donné, les œuvres d'art, pour moi, elles sont faites pour ça. Il y a d'autres artistes qui voient le monde de l'art différemment. J'aime des artistes comme Matisse. J'aime des gens qui vous illuminent, oui.
Et que sont devenus les fantômes qui hantaient votre art, vos photographies? Est-ce qu'ils sont toujours cachés dans votre œuvre également?
Oui, les fantômes sont là, mais les fantômes sont des fantômes qui vous montrent la lumière. Ce ne sont pas des fantômes qui vous entraînent dans les ténèbres.
Vous avez créé beaucoup d'œuvres pour des lieux religieux, pour des cathédrales, des cloîtres. Quel rapport est-ce que vous entretenez avec le sacré, Jean-Michel Autoniel?
Le sacré, je pense que c'est peut-être un autre nom qu'on peut donner à l'émerveillement. C'est-à-dire, c'est voir la vie plus grande qu'elle n'est. C'est retrouver, peut-être la simplicité des choses, voir le sacré. Ce qui me plaît, moi, c'est le sacré qu'on voit dans la nature, le sacré de l'émerveillement quotidien, les fleurs des simples, par exemple, qui m'inspirent beaucoup, ou le ciel étoilé, comme dans le cosmos d'Avignon.
En parlant des matières, on a parlé du charbon, on parle du cosmos, on va parler de la nature aussi plus tard. Vous vous êtes intéressé au fil de votre carrière à la cire, au soufre, au phosphore, à l'obsidienne, matière vitreuse qui naît de la polymérisation de la lave, je m'étais entraînée, et enfin au verre, ce matériau qui vous fascine. Vous travaillez sur le verre à la Villa Médicis à Rome, où vous êtes pensionnaire en 1996, et puis vous exposez dans les jardins de la Fondation Peggy Guggenheim à Venise en 1997, et nous allons écouter Jérémy Maxwell Winterbrett, qui est souffleur de verre à main levée. Il va nous parler de son métier dans les carnets. C'était dans les carnets de la création sur France Culture, et c'était le 30 mars 2016.
J'ai envie de dire que tout est difficile à faire dans le verre, surtout soufflé à main levée. Mais je suis plus fasciné par la matière chaude dans sa condition liquide. Et sa façon de, d'être, d'avoir un caractère aussi fort. Elle est dangereuse, elle est presque indomptable, mais en même temps, elle est délicate, sensuelle. Ouais, c'est, enfin, moi, je suis vraiment attiré par la matière. Après, tout ce qu'il y a autour, ça vient un peu après. Je pense que ce qui est magnifique avec le verre, c'est que ça casse aussi. C'est une vraie métaphore pour tout, quoi. Enfin, tout a une fin, tout. Il y a un moment, les choses, elles cassent, on ne veut pas. Mais bon, on peut les refaire aussi.
La matière du verre est incroyable, c'est le sang de la terre. Est-ce que c'est pour cette raison que le verre vous fascine autant, Jean-Michel Autoniel?
Le verre, c'est quelque chose qui est une des parties de mon travail, qui est importante, c'est vrai, parce que c'est quelque chose qui continue à me rendre heureux. Je veux dire, c'est un matériau que je découvre grâce aux verriers avec qui je travaille, puisque je suis pas souffleur de verre moi-même. Je travaille avec des grands verriers, des grands virtuoses du verre à travers le monde, que ça soit en Inde, à Murano ou en Suisse. Et c'est ce dialogue avec ces verriers qui fait naître les œuvres. Donc moi j'ai un rapport au verre, c'est vrai, comme le dit ce verrier, de façon formidable, un peu comme ça, ésotérique, mais en même temps c'est un matériau qui se métamorphose tout le temps, et c'est ça qui m'intéresse, c'est comment les idées, les concepts se métamorphosent grâce à ce matériau.
Et Jérémy Maxwell Winterbert, il dit que la magie du verre, c'est qu'il se casse. Vous sculptez des perles, des sphères, des cœurs, des constellations, des murs de briques, vous l'avez dit, hein. Mais est-ce que, c'est une question que je me posais et qui m'intéresse beaucoup, est-ce que ce verre peut se casser? Est-ce que vos sculptures sont très fragiles, Jean-Michel Autoniel?
Alors, elles sont apparemment fragiles. C'est ça toute la magie du travail qui m'a pris tant d'années. C'est justement, j'ai travaillé avec un centre de recherche sur le verre à Marseille qui s'appelle le CIRVA, et nous avons développé ensemble un verre quasiment incassable. D'où la station de métro, d'où toutes les œuvres en espace public que j'ai pu faire grâce à ce verre soufflé à main levée, je dirais retravaillé grâce à des ordinateurs de recuisson qui permettent de lui donner une grande force et une grande stabilité. Donc oui, c'est un matériau qui évoque la fragilité, et ça, je trouve, c'est important comme rapport au monde, d'arriver fragile et pas d'arriver justement en force. Donc les sculptures évoquent la fragilité. Heureusement, elles ne le sont pas trop. Elles peuvent l'être, hein, elles peuvent l'être, évidemment, c'est pas incassable, mais il y a quand même ce rapport à cet émerveillement de la fragilité, de la fracture qui est constante dans mon travail.
J'adore cette expression, c'est important d'arriver fragile. C'est tellement vrai, et puis surtout d'arriver fragile et d'être en fait très résistant. C'est un peu magique.
On essaye.
Vous disiez que vous avez travaillé le verre en Inde, à Murano. En Inde, c'est depuis 2011, pour fabriquer notamment ces briques qu'on peut admirer, qui seront dans la cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon. Et donc, ce travail du verre, techniquement, il est différent selon les endroits du monde d'où viennent les artistes. Jean-Michel Autoniel, on parlait des souffleurs de verre, mais ça se fait pas toujours de la même façon.
Alors, la recette du verre, c'est un peu toujours la même. Ce qui est important, c'est ce que les gens y mettent. Quel est leur fantasme, quel est le rêve qui porte ce matériau. Donc en Inde, on est vraiment porté plus par l'univers des Maharajas, des bijoux, de ces constructions de verre, de ce mobilier de cristal. En Italie, on sera plus sur des choses liées à la sculpture, au verre sculpté, au design. Et par exemple, j'ai travaillé aussi avec des verriers au Japon, où là, au contraire, on était vraiment plutôt dans une notion spirituelle, sacrée. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est comment la même chose peut être vue différemment selon, je dirais, toute l'engagement ou la culture qu'on y met. Donc, voilà, c'est ce qui explique tous ces voyages et toutes ces rencontres et toute chaque fois cet émerveillement qui est constant, et ces surprises aussi qui sont différentes selon les pays avec lesquels je travaille.
Toujours l'émerveillement. Vous parliez, quelque part, j'ai lu en préparant, de l'or au Japon, en expliquant justement que la perception de la feuille d'or est très différente en Europe et au Japon. Le regard n'est pas du tout le même.
Ce qui est différent, c'est surtout la notion de la beauté qui est différente au Japon et en Asie en général. C'est-à-dire que la beauté, c'est vraiment je dirais, une étape pour le sacré, pour le spirituel, ce qui n'est pas le cas dans nos cultures judéo-chrétiennes.
C'est paradoxal. C'est ce que vous essayez d'apporter, justement?
Moi, j'essaye, oui, qu'en fin de compte, cette beauté nous amène à quelque chose qui nous élève, qui soit plus de l'ordre du spirituel. Oui.
Plus grand que nous.
J'espère.
Vous travaillez dans un immense atelier à Montreuil, vous êtes très entouré. J'ai vu dans le portrait que vous consacre le magazine Transfuge, dont vous faites la couverture cet été, Jean-Michel Autoniel, qu'une vingtaine de collaborateurs réguliers travaillent avec vous. Est-ce que vous arrivez dans cette ruche de Montreuil, et ailleurs d'ailleurs, à cultiver quand même la solitude, peut-être le recueillement aussi, puisqu'on est dans le sacré, et en avez-vous besoin pour travailler ?
Oui, j'ai besoin d'être seul pour poser mes idées, et donc tout commence par des dessins, des aquarelles que je fais de façon solitaire. J'essaye de couper ma journée en deux, un moment seul et puis un moment justement où là je travaille en groupe avec des gens qui me permettent de faire des choses que je ne sais pas faire, que ça soit travailler sur des logiciels 3D qui permettent de faire des grandes choses comme celles que nous allons voir dans la cour d'honneur, qui sont les plus grandes sculptures que j'ai jamais réalisées, qui vont être montrées sur scène. Tout ça, c'est fait grâce justement à cette équipe qui me permet de non seulement mettre en forme, je dirais, mes idées, mais aussi à les construire.
Donc, des personnes, des ingénieurs, des artistes, des ordinateurs, l'intelligence artificielle, Jean-Michel Autoniel?
L'intelligence artificielle, non, mais par contre, l'utilisation... Et notamment là pour le projet Caroline Carlson qui est vraiment lié à ça, c'est pouvoir sculpter grâce aux lunettes 3D. C'est une chose que j'ai faite grâce à un mécène canadien du Phi Center qui m'avait reçu avec mon équipe pendant une semaine, et on a développé un outil spécifique pour moi, pour que je puisse sculpter grâce à ces lunettes. Et donc, j'ai déplacé des milliers de briques que j'ai mis en forme et que j'ai créé cette constellation de briques qui sera sur scène et grâce à ces lunettes. Et on a pu se promener à l'intérieur, construire les structures qui les soutiennent. Et ça, c'est vraiment la première fois que j'utilise cet outil de façon aussi évidente et d'une façon aussi spectaculaire.
Et comment s'appelle cet outil ? Est-ce qu'il a
été
baptisé ?
Pas de nom, il n'a pas été baptisé encore, c'est une bonne idée. Il va falloir y trouver un nom après ce spectacle, peut-être. On l'appellera peut-être Caroline.
C'est un joli nom. Comment faites-vous, Jean-Michel Autoniel, vous qui êtes nomade, qui produisez énormément, qui êtes un peu partout, en même temps, pour être toujours, pour paraphraser Paul Verlaine, ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre, Jean-Michel Autoniel ?
Je ne sais pas, je crois que c'est dans ma nature.
La réinvention ?
Oui, dans ma nature, d'être toujours curieux de ce que je pourrais être et rester aussi curieux des autres, curieux de ce qu'on peut faire ensemble. Là, c'est ce que j'aime dans le projet avec Caroline Carlson, c'est de travailler à plusieurs, avec d'autres domaines, de pas être dans l'entre-soi, justement, d'être ouvert à la création dans ce qu'elle a de plus multiple. Et c'est peut-être comme ça que j'arrive à me réinventer, oui.
Alors on va l'écouter justement, la grande chorégraphe américaine Caroline Carlson au micro de Laure Adler. C'était dans L'Heure Bleue sur France Inter le 26 juin 2018.
Ce que je ressens, c'est que les choses me traversent, comme si j'étais un support ou un vecteur. C'est quelque chose que je ressens. La créativité, c'est quelque chose qui passe à travers vous.
So I'm an artist too.
Donc, je suis une artiste, oui, certes, en ce sens que je suis émerveillée devant l'univers. Je n'ai pas cet orgueil, cette arrogance de dire c'est moi qui ai fait tout ça, regardez comme c'est beau. Je ne sais pas d'où ça vient. Et les gens m'ont demandé souvent comment je travaillais.
I don't know.
Je ne sais pas.
Because I think something goes through. I mean,
j'ai le sentiment que quelque chose traverse. Vous le disiez tout à l'heure, j'ai beaucoup d'intuition, je suis très spontanée également. Bien sûr, j'ai une idée au préalable. Je travaille avec mes danseurs.
Slowly the work builds into itself.
Le travail prend le dessus ou prend les rênes.
Also with the dancers,
avec les danseurs aussi, parce que moi j'aime travailler avec des gens.
Caroline Carlson, qui chorégraphie donc Midnight Souls, spectacle qui sera joué autour de votre œuvre dans la cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon le 1er et 2 août prochain. Les répétitions sur scène vont commencer, me disiez-vous, et c'est interprété notamment par le danseur étoile Hugo Marchand, la danseuse Caroline Osmond de l'Opéra de Paris, accompagnée de Joa Marsalo et de la Caroline Carlson Company. Caroline Carlson, on l'entendait parler de l'inspiration et du fait que ce sont ses œuvres qui la modèlent finalement, plus que l'inverse. Est-ce que c'est la même chose pour vous? Est-ce que c'est l'œuvre qui s'exprime à travers vous, Jean-Michel Autoniel, ou plutôt vous qui vous exprimez à travers l'œuvre?
Je découvre cette interview de Caroline et je la reconnais entièrement et je me reconnais dans ses propos aussi. Je pense que on est traversé par justement une vision et c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de plaisir et je prends beaucoup de plaisir et je vais prendre beaucoup de plaisir enfin toute cette semaine à travailler avec elle sur scène pour le spectacle qui sera les 1er et 2 août parce que c'est une chorégraphe poète. Elle a cette vision poétique du monde, elle sait le transmettre et c'est ce que j'essaye de faire moi aussi à travers mes œuvres. Et donc ce projet, il est né vraiment d'artiste. C'est un projet qui est né de cette rencontre avec elle et avec Hugo Marchand. Tous les trois, on s'est retrouvés autour de cette cour d'honneur qui m'était offerte pour faire une grande installation. Et quand j'ai vu ses œuvres, quand j'ai imaginé ses œuvres sur scène et que j'ai vu en face ce gradin gigantesque de la cour d'honneur, il y a eu un appel à faire vivre ces sculptures. Et donc j'en ai parlé à Caroline et à Hugo, les deux avaient déjà travaillé ensemble, rêvaient de retravailler ensemble. Moi, je connaissais Caroline à travers l'Académie des Beaux-Arts, puisqu'elle est académicienne, comme moi. Vous. Et donc, du coup, on s'est retrouvés, mais vraiment, c'est vraiment né de cette rencontre entre artistes. Et ça, je trouve que c'est formidable aujourd'hui que ça puisse exister encore. C'est-à-dire, c'est vraiment des artistes qui un jour se sont dit on va prendre à bras le corps cette scène et on va en faire quelque chose. Donc du coup je me suis trouvé producteur de de spectacle, chose que je n'avais jamais fait, et ça c'est aussi grâce à mes équipes qui ont appris en même temps que moi ce que ça voulait dire créer un spectacle et le produire. Et on se retrouve là à monter ça là en ce moment. Au moment où je vous parle, ils sont déjà sur scène en train d'installer des choses et moi j'y serai dès ce soir. Je prends le train après cette émission pour les accompagner. Donc c'est vraiment un moment magique et ça, cette énergie de la création, du regard des croisés entre artistes, c'est ce qu'il y a de plus beau, je pense.
Vous me parliez des lunettes 3D à l'instant, mais là c'est le même principe, c'est de la 3D, c'est-à-dire qu'on met ensemble sculpture, musique, danse, poésie, disiez-vous, pour faire un art.
C'est pas vraiment de la 3D dans le sens où la 3D, on est un peu seul dans son casque, mais là. Là, c'est vraiment magique. J'ai assisté aux répétitions à l'Opéra de Paris. On a vraiment beaucoup parlé avec Caroline. Ils sont venus voir les sculptures quand elles étaient en montage dans mon atelier à Montreuil. Elle a réfléchi à comment jouer avec ces sculptures. Donc c'est une histoire commune. Oui, c'est une histoire qu'on fait ensemble. Et moi, ça me fascine, cette idée du temps spectaculaire. C'est une chose qu'on n'a pas en art. Nous, on fait une œuvre, quand on est artiste, plasticien ou sculpteur comme moi, l'œuvre, elle est accrochée au mur et on doit y revenir. C'est notre regard qui ne doit jamais s'épuiser. Alors que là, on va travailler sur le temps spectaculaire, sur cette magie. Et là, j'ai associé à ce projet Eric Soyer, qui est un grand éclairagiste lumière, qui lui-même va donner une interprétation de mes sculptures le temps de ces deux jours. Donc, on ne verra ces sculptures de façon très différentes pendant ces deux jours et après elles vont rester sur scène pendant deux mois. Donc on pourra les voir comme le cœur central de cette exposition. C'est un peu comme le trou noir de cette grande constellation d'Autoniel Cosmos. C'est vraiment la pièce manquante, la pièce maîtresse qui va être jouée ces jours-là et qui va être comme par hasard autour d'un corps, celui d'Hugo, qui va être en grande partie en solo sur scène. Enfin, je veux pas dévoiler le mystère de ce spectacle, mais c'est vraiment cette idée du corps autour qui crée cette énergie et qui fait que tout gravite autour. Et moi, j'ai ce sentiment souvent en tant qu'artiste, c'est que ce qui prend beaucoup de temps, c'est d'arriver à créer une dynamique autour de soi. C'est-à-dire que les œuvres commencent à résonner et toute l'exposition d'Avignon est construite comme ça. C'est-à-dire qu'elle commence autour de cette cour, elle tourne, elle prend toutes les salles du palais, et puis elle prend tous les musées de la ville et puis les places publiques. Donc on est vraiment dans une grande... Oui, constellation, mais aussi une grande tornade, en fin de compte, on est au cœur de la tornade.
Un système solaire, en somme.
Oui, un système où tout tourne autour de ce palais des papes, mais en même temps, où il y a cette énergie qui part du corps.
J'adore l'idée du temps spectaculaire, parce que c'est le temps du spectacle, et c'est aussi un moment pendant lequel tout va être absolument spectaculaire. J'imagine que c'est galvanisant pour un artiste.
Oui, c'est tellement nouveau pour moi, et c'est tellement, en même temps... une aventure, parce que peut-être ça va ouvrir d'autres portes dans mon travail, je ne sais pas.
Et puis c'est aussi un rapport différent au public. Vous êtes devenu, vous avez commencé à occuper l'espace public et la lumière est vraiment tombée sur vous avec le kiosque des Noctambules, donc cette station de Louvre-Rivoli, c'était 2000, c'était le passage à l'an 2000. Et là, à ce moment-là, vous êtes quelqu'un qui exposait, on peut vous voir, hein, comme je le disais en introduction, à la cathédrale d'Angoulême, au Puy-en-Velay, dans différents pays, à Versailles. Est-ce que le fait d'être... de rentrer dans un temps spectaculaire, c'est encore une autre façon d'être au monde et d'être au public pour vous, Jean-Michel Autoniel.
Oui, dans le sens où on va travailler sur le souvenir. Alors évidemment, on a toujours un souvenir des expositions et je pense que c'est ça qui est assez merveilleux dans ce que je peux faire, puisque l'exposition au Petit Palais, par exemple, que j'avais fait à Paris, des gens sont venus voir l'exposition à Avignon parce qu'ils ont vu cette expo et en gardent un souvenir de cet escalier bleu comme ça qui montait et qui, vrai, était éphémère et ne sera jamais remontré. Donc, le souvenir, il est lié aussi à l'exposition, mais pas dans cette rapidité et cette fulgurance qui est dans le spectacle. Le spectacle, c'est, voilà, on a une heure où on va faire exploser les étoiles. Donc, où les gens vont garder, je dirais, un souvenir émerveillé de ce moment. Et c'est ça, moi, qui m'excite dans ce projet là qu'on est en train de construire, parce qu'il est condensé. C'est vraiment comme la collision de deux supernovas. C'est-à-dire qu'on est vraiment à ce moment-là, au cœur des étoiles. Et là, j'ai vraiment envie de le partager, j'ai vraiment envie... que la cour d'honneur soit pleine et qu'on en soit tous heureux, voilà.
Il y a cette tension aussi de l'éphémère qui n'existe pas vraiment quand on prépare une sculpture, notamment pour les très grandes sculptures. J'imagine que c'est un temps très long, que c'est peut-être parfois aussi des échecs, peut-être de la casse hein, quand c'est en train d'être produit. Et puis après c'est là, c'est posé, c'est pour un temps plus ou moins long, parfois pour toujours. La danse, c'est différent, c'est le temps d'un spectacle. C'est
oui, l'éphémère. Alors là on joue un peu sur deux tableaux puisque en même temps il y aura ce temps spectaculaire les premiers les 2 août et puis après il va y avoir pendant 2 mois cette grande installation monumentale, la plus grande que j'ai jamais fait, et c'est la première fois que la cour d'honneur est donnée à un artiste pour y mettre des sculptures.
Merci beaucoup Jean-Michel Autoniel pour cette première partie d'entretien. Nous allons nous retrouver en deuxième partie d'émission pour continuer d'évoquer ensemble votre travail autour du verre, autour de l'émerveillement, autour de la matière. Et puis nous allons également parler de la nature, de l'éphémère, du cosmos et d'éternité. Mais ça va très bientôt être l'heure du journal. Présenté par Mathieu Laurent.
France Culture. Les midis de culture. Élise Lépine.
Et me revoici en présence du sculpteur Jean-Michel Autoniel, qui, je le rappelle, fait l'objet de 3 expositions cet été. Une à Avignon, l'autre à Cannes et la troisième à Shanghai. Mais il y a aussi ce très beau livre, Jean-Michel Autoniel, qui paraît chez Actes Sud, Autoniel Cosmos ou les fantômes de l'amour. Alors ce n'est pas le catalogue de l'exposition présentée à Avignon, qui existe par ailleurs chez Beaux-Arts Éditions, mais c'est un bel objet bleu, vif et doré que je tiens dans mes mains avec une couverture très agréable à manier. Qui présente à l'intérieur des aquarelles que vous signez, bien sûr, et puis agrémenté de très beaux textes signés Colin Lemoine, qui est écrivain, éditeur, historien de l'art et critique d'art. Est-ce que vous pouvez me dire, Jean-Michel Autoniel, comment est née l'idée de cette collaboration et puis celle de faire dialoguer l'aquarelle et des textes littéraires ?
C'est né au départ d'une contrainte qui est de se dire avoir un ouvrage à l'ouverture de l'exposition. C'est toujours une question que tous les artistes se posent, est-ce qu'il faut un catalogue à l'ouverture ou pas? Et donc j'ai pris le taureau par les cornes, je me suis dit je vais dessiner tout le parcours de l'exposition, musée après musée, et je vais en faire des aquarelles en m'appuyant sur des aquarelles qui sont les aquarelles qui ont servi à la construction des œuvres et d'autres qui ont été faites spécialement pour illustrer les textes de Colin Lemoine, qui sont des textes poétiques qui nous prennent par la main et nous amènent d'un lieu à l'autre. Donc c'est une collaboration déjà avec Colin Lemoine que je connaissais par ailleurs, mais qui est vraiment, c'est notre première collaboration autour d'un texte illustré, et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Puis Actes Sud, parce que c'est la maison qui m'a édité beaucoup, avec laquelle j'ai fait de beaux livres, et souvent des collaborations avec d'autres écrivains. Et donc voilà, donc c'est un objet, c'est un livre-objet, c'est comme un carnet de voyage, illustré donc de toutes ces aquarelles, et qui va venir compléter, ou qui annonce plutôt le grand livre qu'on va faire dans quelques mois, où il y aura toutes les images de ces expositions qui sont un peu comme des poupées russes dans la ville d'Avignon.
Et c'est un dialogue qui s'est établi entre vous et Colin Lemoine. Vous avez eu un regard sur ces textes, vous avez lu en avance, est-ce que vous avez parfois réagi, est-ce que c'est une discussion?
C'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'il a réagi à mes aquarelles. On a beaucoup parlé de l'exposition, puisque en fin de compte c'est une exposition un peu spéciale pour moi, parce que j'en suis aussi le commissaire, donc c'est moi-même qui l'ai construit, qui construit ce fil narratif, et donc du coup on a échangé autour de cette idée de justement des sonnettes de Pétrarque, qui était un peu le fil conducteur de cette grande exposition sur les 10 lieux dans Avignon.
Justement, je propose que nous écoutions un extrait du Canzoniere de Pétrarque, lu par Jacques Bonafé sur France Culture, le 4 mars 2019.
Vous qui écoutez l'écho des soupirs dont j'ai en vers et par nourri mon cœur, au temps de ma fautive jeunesse où j'étais un autre homme qu'à présent, pour mes pleurs d'hiver et pour mes discours, entre vains espoirs et vaines douleurs, que celui de vous qui connaît l'amour soit compatissant et même indulgent. Je suis hélas certain que ma conduite fut longtemps la risée de tous, si bien que je me fais souvent honte à moi-même. La honte est le fruit de mes errements, et le repentir et le clair savoir que ce qui plaît au monde est un court rêve. Mais pour se venger avec élégance, châtiant en un jour tant de résistance, amour en secret a repris son arc comme qui attend l'occasion de nuire. Amour me trouva privé de toute arme, la voix était libre des yeux au cœur, où ce sont les pleurs qui entrent et sortent. Mais à mon avis, il n'est pas glorieux de m'avoir blessé dans un tel état. Vous étiez armé, pourquoi sortir l'arc? Lorsque vers vous je lance mes soupirs, avec le nom qu'amour mit dans mon cœur, un chant se fait entendre autour de moi, résonnant de ses si tendres accents, et je fais régner votre beauté, bestiale étoile. Si le ciel sur nous a le pouvoir qu'on dit quand je suis né, bestial berceau où bébé je fus mis, terre bestiale où je marchais enfant, femme bestiale qui, de ses deux yeux et de son arc m'ayant pris pour sa cible, fit la plaie qu'amour, je ne peux pas taire, toi, seul en mesure de la guérir. Mais tu te réjouis de mes douleurs, elle non, les trouvant encore trop faibles, car la flèche n'est pas assez fatale. Mon réconfort est qu'il vaut mieux languir pour elle qu'être aimé ailleurs, dis-tu, par tes flèches dorées que je veux croire.
Pétrarque, évidemment, poète italien du XIVe siècle qui a vécu un temps à Avignon et qui y a aperçu pour la toute première fois son grand amour, Laure, à qui il dédie ses vers. Jean-Michel Autoniel, vous écoutiez ce texte avec un doux sourire sur votre visage et on comprend bien que Pétrarque était incontournable pour vous en vous installant à Avignon. Mais qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce qui vous touche particulièrement chez lui et qui vous a donné envie de le rendre sensible dans toute cette exposition?
Pétrarque, c'est surtout la figure du poète, et c'est cette figure qui a été pour moi la clé à ce grand parcours dans Avignon. parce qu'Avignon, c'est la ville du pouvoir, c'est la ville de l'Église. Et donc, la figure du poète m'a permis de retrouver une certaine légèreté dans cette ville qui est quand même une ville derrière ses remparts, très, très close et avec ses architectures monumentales comme le Palais des Papes. Et donc cette légèreté et cet amour que décrit Pétard, qui est toujours renaissant, c'est-à-dire que c'est en même temps un hommage à cette femme qu'il a rencontrée au couvent Sainte-Claire, et d'ailleurs ce couvent existe encore, et c'est dans ce couvent que j'ai mis une œuvre monumentale, un grand cœur de verre, à cet endroit même du coup de foudre, donc on peut aller voir si ce coup de foudre peut être réactivé encore aujourd'hui. Et c'est une figure du poète qui est importante parce que elle montre cette obsession que je pense qu'on a tous en tant qu'artiste et peut-être en tant qu'amoureux, de vouloir reconstruire, de vouloir toujours aller vers un amour renaissant. Et c'est vraiment une belle métaphore qui m'a permis de faire une exposition sous forme de sonnet. En fin de compte, chaque lieu raconte un peu la même histoire, mais de façon différente. Et c'est ce que lui a fait tout au long de sa vie, puis avec ses 366 poèmes qu'il dédie à cette femme du moment où il la rencontre, donc ce fameux moment du coup de foudre, jusqu'au moment où elle va se marier, et puis après où elle décède, et puis il l'aime après la mort, après il l'aime dans la nature et dans la nature qu'il découvre, où il la voit réapparaître. Donc il y a tout ce passage des différentes étapes de l'état amoureux qu'il décrit, et là, de façon très métaphorique et presque mythologique dans l'extrait que vous avez passé, mais ça va dans des choses beaucoup plus triviales et beaucoup plus simples. Et c'est vraiment un poète qui a donné naissance à une forme poétique très contemporaine, puisqu'elle a été reprise par Michel-Ange, par Shakespeare, par Pasolini même. Donc c'est une forme poétique qui m'a permis de construire cette exposition.
J'ai l'impression que pour vous, la clé, c'est l'amour, en fait, qui permet à la fois de garder une unicité, d'ouvrir des portes, de créer, de renouveler son imagination.
Oui, l'amour dans ce qu'il a de plus générique et de plus important aujourd'hui, de donner, en fin de compte, de donner de l'espoir, de donner de la joie, de donner de la beauté. Et c'est ce que j'essaye de faire à travers ces différentes étapes dans la ville.
On revient à l'espoir. Je crois que les contes, les légendes et les croyances populaires vous ont aussi beaucoup inspiré au fil de votre carrière. Pourquoi est-ce que vous aimez les contes de fées, Jean-Michel Autoniel ? Vous me parlez d'amour, vous me parlez d'espoir, vous me parlez d'émerveillement, mais les contes de fées, c'est aussi une forme de noirceur.
Oui, bah justement, peut-être que dans la partie obscure du conte de fées, du conte plutôt, qui est donné à Avignon, ce sera dans la cour d'honneur. C'est cette grande installation noire qui est, ce cœur qui va venir être le contrepoint de cet émerveillement. Mais je pense que dans l'émerveillement, il n'y a pas, et dans la beauté, il y a aussi cette partie d'ombre qui est importante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ombre sans lumière.
Donc c'est important aussi de savoir la cultiver, mais surtout de savoir l'apprivoiser.
Savoir l'apprivoiser, savoir en faire quelque chose de positif à la fin.
Que vont devenir, Jean-Michel Autoniel, les 260 œuvres exposées à Avignon ? Je vous vois sourire et passer la main sur votre visage.
Oui, parce que c'est une question que je me suis pas vraiment posée. J'ai foncé tête baissée dans ce projet, avec cette énergie, avec tous ces musées qui ont répondu présent, avec des jeunes conservateurs, j'allais dire presque conservatrices, puisque c'est 99% des femmes qui gèrent ces musées, qui sont tous des jeunes conservateurs de la même génération et qui m'ont porté dans ce projet. Et donc toutes ces œuvres, je ne sais pas. Je vais maintenant travailler à voir ce que je peux en faire. C'est-à-dire, évidemment, elles peuvent pas toutes revenir dans mon atelier, sinon l'atelier exploserait, bien qu'il soit très grand. Et donc, je vais essayer de trouver des lieux relais qui vont permettre à ces œuvres d'être montrées ailleurs sous d'autres formes et peut-être à l'étranger.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et je rappelle qu'on peut voir l'exposition Autoniel, Cosmos ou les fantômes de l'amour à Avignon. C'est jusqu'au 4 janvier. Et les 1er et 2 août prochains, le spectacle Midnight Souls, chorégraphié par Caroline Carlson, le grand événement. On peut voir Poussière d'étoiles aussi à la Malmaison à Cannes jusqu'au 4 janvier également. Et Autoniel, The Enchantment à Shanghai au Long Museum. Ça, c'est jusqu'au 7 septembre. Et puis, on peut lire Autoniel, Cosmos, donc ce fameux texte qui est publié par les éditions Actes Sud et qui est un très beau livre. Merci beaucoup pour l'émerveillement, Jean-Michel.
Merci à vous.
Othoniel. On se quitte, bien sûr, avec Heart of Glass de Blondie. L'émission a été préparée par Zoé Coupé, Léa Weichgruss, Lisa Dejode et Nina Gandara. À la réalisation aujourd'hui, Margot Page et à la technique, Ludovic Auger.